toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G 101.5 FM, radio-g.fr et en DAB+. Aujourd'hui, 11e épisode de Rencontre avec Corinne Daniello, traductrice littéraire. Bonjour Corinne.
Bonjour Nicolas.
Comment ça va?
Super bien.
Merci d'avoir accepté de venir de Rencontre sur Radio G aujourd'hui.
C'est normal, c'est un plaisir.
On enregistre donc cet épisode, Corinne, à Radio G, pour des raisons de diverses raisons de praticité. Est-ce que tu peux nous dire l'endroit de rêve pour toi où on aurait pu enregistrer ?
Il y a des cafés que j'aime beaucoup, qui sont des cafés où je vais pour bosser souvent en journée, qui sont très agréables, généralement le genre de lieu un peu espacé, avec un peu de verdure, où je peux me poser très longtemps sans qu'on m'embête. Et c'est un endroit auquel j'avais pensé, mais bon, je me disais, est-ce qu'un café, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, casse-pied ? Mais c'est des endroits que j'aime bien. J'aime bien y mettre pour bosser et pour discuter.
Et pour bosser, t'as besoin de calme, de silence, c'est important?
Ça dépend, parce que j'ai deux phases de travail, la phase de préparation de mes pages, et là je peux être dans le bruit avec du monde autour, et la phase où je me mets à taper sur mon ordinateur. Je peux le faire à peu près n'importe où, mais en vrai je travaille quand même beaucoup mieux dans un silence absolu ou dans de la musique lo-fi dans les oreilles.
Bah justement, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est ton métier, Corinne, tu es traductrice littéraire. Bah, est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors la traduction littéraire, c'est le domaine de traduction qui concerne tout ce qu'on va pouvoir trouver dans une librairie. Donc à différencier de la traduction de sous-titres, la traduction audiovisuelle, ce qu'on appelle, donc le sous-titre, le doublage, l'interprétariat, qui est la traduction orale en direct, et la traduction technique ou pragmatique, qui est la traduction de choses qui n'ont pas de valeur artistique. Donc on va dire des notices de micro-ondes, mais des contrats, des trucs juridiques, des manuels. Là, moi, je traduis tout ce qui peut se trouver en théorie dans une librairie. Ça pourrait être des légendes de livres de photos, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être des essais, de la fiction, de la non-fiction. En l'occurrence, moi, je fais principalement de la fiction, principalement de la littérature jeunesse, de l'adolescent pour Casterman Jeunesse, et de la un petit peu moins important, de la littérature adulte, plein de polar et thriller pour Sonatine, et quelques bouquins. Là, enfin, c'est tout nouveau, mais je commence à travailler pour JC Lattès sur des bouquins différents, mais qui sont très enthousiasmants. Et voilà, je ne fais pas de la grande littérature, c'est un métier très différent du mien. Bon, je suis censée pouvoir le faire.
Qu'est-ce que tu différencies, qu'est-ce que t'appelles la grande littérature ?
C'est la littérature où, quand je traduis l'auteur, je dois faire attention à son style, au fait que c'est quelqu'un qui sait écrire, qu'on est pas seulement dans l'histoire qui nous plaît, mais dans il se passe quelque chose au niveau de l'écriture. Et là, ça demande, il y a un bouquin que j'ai traduit qui, à mon sens, même s'il était vendu en littérature générale, était à mon sens de la grande littérature, et où vraiment je sens que l'exercice est pas pareil. Puisqu'au lieu de trouver ce qui sonne le mieux en français, il faut que ça sonne le mieux en français, mais qu'on comprenne que cette personne l'a écrit comme ça. Et pas juste, oh, ça sonne bien, c'est normal.
Comment ça se passe la traduction d'un ouvrage ? Comment, il y a des étapes importantes ? Tu reçois le livre en avance, comment ça marche ?
Alors, je travaille donc pour différentes maisons d'édition. J'ai un statut qui est artiste-auteur, c'est-à-dire que je suis considérée comme un écrivain. Je suis payée en droit d'auteur. Mais ce que j'ai comme contrat, c'est des sortes de contrats de mission. C'est-à-dire qu'une maison d'édition va m'envoyer un contrat, traduire tel bouquin, à rendre tant, il fait telle page, on vous propose telle somme. Donc je le rends ensuite idéalement dans le temps imparti.
Un délai plus ou moins long.
Alors tout ça dépend du monde de l'édition, pas beaucoup de moi, malheureusement. En fait, souvent, je traduis des bouquins où c'est quelque chose qui est prévu pour dans un an. Là, je démarre tout juste la traduction d'un bouquin qui sortira en 2026. J'ai rendu quelque chose il y a un mois qui sortira dans le courant de l'année, mais il est très court, donc il y a peu de travail éditorial dessus. Mais il m'arrive des fois de traduire des romans qui sont très attendus par le public. Et donc là, on reçoit le manuscrit et on enclenche le chronomètre de là vraiment, si on pouvait traduire le plus court possible, ce serait bien.
Tu reçois le bouquin, on te dit ta mission, ça va être de traduire
tout à fait.
Tel livre.
En fait, on m'envoie un manuscrit. La majeure partie du temps, c'est un manuscrit qui n'a pas encore été publié en VO, parce que c'est comme ça que ça se fait le plus. Mais ça arrive que je traduise quelque chose qui est déjà sorti. On m'envoie ce manuscrit, on me dit ça parle de ça, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que t'aurais le temps à tel moment. Donc déjà, on affine au début, est-ce que ça me paraît possible ? Est-ce que ça rentre dans mon emploi du temps ? Est-ce que c'est un truc que j'ai envie de faire ? Si la réponse est oui à ces deux questions, je lis le bouquin, je lis un peu en diagonale. Il peut m'arriver de dire à la fin, c'est rarissime, mais il m'est arrivé une fois de dire, ouais non, ça allait dans l'emploi du temps, je me disais pourquoi pas, mais en le lisant, vraiment pas. Parce que je savais que c'était beaucoup de travail, je savais que le délai était un peu serré, et en le lisant, je me disais, je n'aime pas ce bouquin, je n'aime pas cet auteur. Et à ce moment-là, j'avais déjà 10 ans de carrière derrière moi, c'était possible de dire à cette maison d'édition pour laquelle j'avais déjà bossé, je ne suis pas la meilleure personne pour cette traduction. Mais sinon, voilà, je lis, je dis, en général, oui, ok, ça me va, pas de problème. Je peux faire des retours à la maison d'édition. Casterman Jeunesse me demande pas mal d'avis sur des lectures de livres, donc des bouquins qui n'ont pas forcément encore acheté. Ils m'envoient des manuscrits. Tu peux nous faire une fiche de lecture, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses ?
C'est sympa.
C'est très très bien, hyper intéressant, et ça me permet aussi de dire quand je lis, J'aimerais bien me positionner dessus parce que j'ai bien aimé ça. Ça me plaît, je voudrais le faire. Donc voilà, je peux faire un retour à la maison d'édition en disant il y avait quelque chose qu'on m'avait envoyé, qu'on m'avait proposé et où j'ai dit à la maison d'édition, genre je veux pas le traduire, moi je vous conseillerais de pas le publier. Et parce que je connaissais un petit peu l'auteur et je pense que la maison d'édition connaissait pas l'auteur. Il y avait tout un background autour de l'auteur, je suis pas sûre que vous ayez envie de vous frotter à ça et je crois qu'ils ont laissé tomber.
Au mieux.
Oui, j'étais bien d'accord. Donc voilà, on m'envoie, donc une fois que qu'on s'est mis d'accord, oui, je l'ai lu, je peux le faire, je pense qu'il fera 500 feuillets, je pense que je peux le faire en 6 mois, je le rends en mai 2026. Je démarre ma traduction au moment où quand ça rentre dans mon emploi du temps. On me pose souvent la question de ce que je traduis plusieurs livres à la fois.
Qui est une bonne question.
Tout à fait, et qui pourtant est vraiment, c'est un truc où c'est absolument impossible. Parce qu'en fait, soit je dois rendre deux bouquins à peu près au même moment, mais dans ce cas, je vais faire l'un après l'autre. Je vais pas faire un chapitre d'un policier le matin et un chapitre d'une histoire d'amour le soir. En plus, on va se mélanger entre les bouquins, entre les petits détails, le fait que ah tiens là, je suis peut-être en train de faire une répétition de l'un à l'autre. Il peut m'arriver de commencer un livre, de devoir m'interrompre parce que je reçois quelque chose d'urgent, là de le faire et une fois que je l'ai fini, reprendre l'autre. C'est vraiment pas le plus confortable puisque le plus dur, à mon sens, dans une traduction, c'est de se lancer dans la traduction. De la démarrer, là je viens de démarrer quelque chose il y a une dizaine de jours et je sens que je patine encore. J'ai pas encore senti, est-ce que cette personne écrit super bien avec ses expressions ou est-ce que en fait j'ai pas besoin de faire ses expressions très clairement, j'ai besoin de faire quelque chose qui sonne bien en français. Faut que je fasse ces choix-là et quand on démarre, on a un peu de mal à se mettre dedans, à se caler dans le rythme du récit.
Il faut un temps avant de bien comprendre l'auteur.
Ouais.
Il y a tout un enjeu de compréhension de ce que dit l'auteur et comment tu vas le transposer toi en français.
Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour l'auteur et qu'est-ce qui est le plus important pour le lecteur. Est-ce que l'auteur il pense qu'il a une plume absolument géniale mais en fait il fait des phrases qui font 5 pages d'affilée en mettant des virgules à la place des points parce qu'il pense que c'est du style. Et en fait c'est de se rendre compte de est-ce que le lecteur il a remarqué ça? Est-ce qu'il a trouvé ça bien? Est-ce que ça lui est passé complètement à côté et que lui, il a vu des points virgules, il s'est dit, ouais, c'est un point, c'est pareil. Est-ce que du coup, moi, je choisis de, c'est pas très intéressant, je vais faire des phrases longues parce que ça a l'air d'être ton truc. Par contre, est-ce que je dois respecter la phrase absolument? Est-ce que ce qui est important pour l'auteur, c'est qu'on ait vraiment compris ce qui se passe dans la tête de son personnage à ce moment-là? Ou est-ce qu'il veut absolument qu'on trouve que sa phrase, elle est géniale? Sachant que moi, je suis considérée comme l'autrice du livre en français.
D'accord. Donc, tu as une liberté.
Tout à fait. C'est aussi pour ça que je suis payée en droit d'auteur. On considère que j'ajoute une valeur artistique au livre, une valeur créative. C'est aussi pour ça que la question de l'intelligence artificielle qui se pose beaucoup ne m'inquiète pas énormément. Il est évident qu'il va y avoir des bouleversements dans le milieu de l'édition, mais pour moi, ils vont concerner des maisons d'édition qui ne considèrent déjà pas très bien leurs traducteurs, qui les payent mal, qui considèrent qu'on peut le passer dans Google Trad et le faire relire par quelqu'un. Ces gens-là, je travaille pas avec eux de toute façon. Donc je reçois mon bouquin, je démarre, je reviens à mon fil.
C'est ça.
La manière dont je travaille, c'est je lis le livre en entier. Pareil, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce que tu lis en entier avant de commencer? Oui, parce qu'en fait, il va y avoir des indices, des choses qui reviennent. J'ai besoin de le savoir tout de suite. Bon, évidemment, dans les polars, j'ai besoin de savoir tout de suite qui est la personne qui a tué machin pour savoir s'il y a des petits indices qui sont par-ci, par-là. Mais j'ai aussi besoin d'être allé jusqu'à la fin du bouquin pour savoir si machin et truc se vouvoient ou se tutoient. Et à quel moment il faudrait que je le mette? C'est quoi la manière de parler de machin? Est-ce qu'elle est hyper vulgaire? Est-ce que c'est très drôle? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux de mots? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déplacer? Et ensuite, la manière dont je travaille, c'est chapitre par chapitre, s'ils sont d'une longueur correcte. Donc je vais, moi, je prépare mes pages, c'est-à-dire que je prends 4, 6, 8 pages d'affilée, imprimées devant moi, de la VO, et je la traduis dans ma tête. En annotant le plus de choses sur le côté, parce que généralement ce qui me vient tout de suite dans la tête va être plutôt naturel et plutôt une bonne idée.
Okay.
Alors que si je suis devant mon ordinateur et que je commence à taper,
tu vas réfléchir et ça va être moins fluide, moins
bien. Exactement. En fait, quand ça passe tout seul dans la tête, on perd pas de temps et les liens se font plus facilement. Je vais annoter des choses, je vais souligner les mots où je me dis, je sais ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il y a une traduction super que moi j'ai pas de ce mot-là? Et je fais des déplacements, je vais faire des petits signes qui marquent. Là, il faudrait mettre les conjonction de coordination à tel endroit, les marqueurs de temps et d'espace, on les met en début de phrase en français. Cet après-midi, je suis allée me promener, alors que les Anglais, ils mettent ça un peu n'importe où dans la phrase. Nous, c'est vraiment plus élégant quand c'est en début de phrase, c'est comme ça qu'on parle. Donc, noter ces choses-là pour qu'ensuite, une fois que je me pose à mon ordinateur pour rédiger tout ce que j'ai préparé, idéalement le même jour pour que ce soit hyper frais. Ça file très vite, ça file tout seul, que ce soit évident quand je regarde la page et que là je puisse m'arrêter à mince, il a fait une référence culturelle à un mime que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux anglo-saxons et aussi je dois le décrire en français, ça va pas marcher du tout.
Et donc là,
alors j'ai un petit fichier à côté qui s'appelle difficulté sur lequel je fais des petits copier-coller de là j'ai pas une solution, je vais mettre ça là, j'y réfléchirai plus tard. J'ai la chance de travailler avec mon mari Pierre qui est traducteur littéraire aussi. Donc je travaille avec lui dans le sens où on traduit chacun de notre côté nos bouquins, mais on se les fait relire à chaque fois. Une fois le bouquin terminé, on se le fait relire. Mais ça peut aussi dire qu'à un moment de la journée, je peux dire à Pierre « Tu connais le nom de tel truc là ? Ça te dit quelque chose ça ?» Et d'un seul coup, lui, ça va lui venir plus naturellement qu'à moi, et vice-versa. Ou alors de lui dire « J'ai tel problème, je te le mets dans la tête. » Comme ça, tu réfléchis un peu et on y revient plus tard tous les deux.
Et on réfléchit à deux et ça va peut-être être plus fluide,
exactement,
plus intéressant.
C'est ça. Et puis en fait, il y a de l'échange et des fois, c'est pas lui qui va trouver la solution, même s'il trouve hyper souvent parce que lui, il est en dehors du texte, donc il va trouver des super idées. Puis en plus, il est brillant.
Et c'est ton mari, donc ça
il est formidable, il est extraordinaire. Donc voilà, il va me proposer quelque chose, mais des fois, ça va pas forcément être sa solution, mais simplement le fait qu'il m'a proposé quelque chose va me lancer sur une autre idée. Et d'un seul coup, genre, oh oui, c'est bon, ça c'est une bonne idée.
Donc une fois que tu l'as fini entièrement, tu renvoies à la maison d'édition ton bouquin, ouais, et eux, ils te disent « c'est bon », ils te disent des corrections.
Alors, les deux, idéalement, ils me disent « c'est bien ». Je relis toute ma... Alors, je fais tout ça chapitre par chapitre, je relis tout entièrement, je fais des choix que j'ai pas fait avant. Est-ce qu'on met un accent sur le prénom de Agnès parce qu'il est pas en anglais, mais il est en français, mais est-ce que ce sera bizarre parce qu'elle est américaine ? Des choix comme ça qu'il faut faire. Ensuite, donc une fois que ça m'a l'air tout propre et tout beau, je renvoie ça à la maison d'édition. La maison d'édition le passe en premier lieu à un préparateur ou une préparatrice de copie. C'est une personne qui va vérifier, qui va travailler attentivement sur la correction du livre. Pour ça, elle va vérifier la conformité avec la VO. Tout simplement de, est-ce qu'on n'est pas parti complètement n'importe où ? Est-ce que j'ai pas fait absolument n'importe quoi ? Est-ce que j'ai pas zappé un mot, une phrase, un paragraphe, un chapitre ? Parce que ça arrive. Juste le truc de, ouh, mince ! D'un seul coup, il y a un truc qui est passé, quoi. Ça arrive. Squeezer un paragraphe, c'est hyper fréquent. Il suffit que deux paragraphes se terminent à peu près au même endroit de la page avec le même mot pour que l'œil passe en dessous, en fait. Donc, cette personne va vérifier la conformité, vérifier que je me suis pas éloignée, va des fois proposer des corrections. Clairement, on va dire, cette phrase, elle sonne pas hyper bien. Est-ce qu'on dirait pas plutôt ça? Les meilleurs correcteurs ou préparateurs de copies, c'est des gens qui, en fait, ils me renvoient un document avec plein de corrections et toutes ces corrections, quand je les vois, je me dis, voilà, c'était ça. C'est ce truc que j'ai pas eu, que j'avais sur le bout de la langue et qui est jamais sorti. Et ils vont aussi me faire des propositions sur, des fois, remettre en question mes choix de traduction. Est-ce qu'on est d'accord qu'à ce moment-là, ce passage, il devrait être au présent ? Est-ce qu'on est d'accord que telle personne se vouvoie ? Et elle va peut-être juste des fois mettre le doigt sur est-ce qu'on est sûr que c'est ça qu'on fait ? Et ensuite, moi, je lui renvoie, cette personne correspond avec moi directement. Donc, je lui renvoie son fichier en disant généralement oui, c'est génial, c'est super. La toute première fois, on a tendance à dire quoi, c'est génial, mais enfin, tu as déplacé une virgule. Comment t'as osé ? Cette virgule était hyper importante pour moi. Et ensuite, on lâche un peu l'ego et on apprend aussi à choisir ses batailles. Alors, je m'en fiche. Tu penses que les virgules, elles se mettent là ? Ok, vas-y, éclate-toi.
Par contre, je vais garder autre chose.
Moi, par contre, à tel moment, tel jeu de mots qui te plaît pas, moi, je le trouve extraordinaire. Donc je veux qu'il reste. Chacun fait un effort.
Et du coup, une fois que la préparatrice de copie, vous avez échangé, vous avez corrigé l'œuvre.
Alors on voit ça à l'éditeur. Soit l'éditeur ou l'éditrice est pas hyper en confiance sur le bouquin, ou c'est un bouquin hyper important qui a coûté très cher et du coup va là le relire personnellement, faire plein de notes, etc. Pareil, me renvoyer les questions, sachant que c'est l'éditeur ou l'éditrice qui a la main sur le dernier mot. Si je suis pas d'accord avec les préparateurs de copie, elle pense qu'il faut qu'on dise vous, moi je pense qu'il faut qu'on dise tu, c'est l'éditeur qui tranche.
D'accord.
Moi, ensuite, mon seul recours, c'est de demander à ce que mon nom ne figure pas sur le livre. Donc, pour un truc de tutoiement, vouvoiement, on s'en fiche, mais des fois, il y a des choses qui, en fait, vont éthiquement me poser problème ou poser problème à l'éditeur et où je vais dire, bah, en fait, là, moi, je trouve que soit on a trahi l'esprit du bouquin, soit je ne suis pas d'accord pour transmettre ça au lecteur. Du coup, je voudrais juste que mon nom n'apparaisse pas. Je ferai quand même mes droits d'auteur, mais c'est ma main parce que c'est mon nom, en fait, dessus.
Donc, on ne verra pas ton nom, on verra traduit, on ne sait pas par qui.
On verra traduit de l'anglais, je peux mettre un pseudonyme. J'ai des amis qui font ça, qui ont des pseudonymes pour, en fait, des bouquins dont ils sont pas très fiers. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ma pub que j'ai traduit ça ? Non. Donc, ils ont un super pseudonyme. Donc, ça, c'est une étape pas obligatoire de l'éditeur. Ouais. Là, la plupart de mes éditeurs, ils ont bossé avec moi depuis plein d'années. Ils connaissent la qualité de mon travail. Ils savent comment je bosse. Ils font confiance à leur préparateur de copies. Ils ont pas besoin de repasser dessus précisément. Ils vont le survoler parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils publient, mais sinon, ce sera pas la peine de plonger dedans. Et ensuite, ça va passer à environ deux étapes de correction orthographique et typographique. Donc, est-ce qu'on met, dans cette maison d'édition, est-ce qu'on met des guillemets ou des tirets? Comment est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'il y a des fautes? Il y aura des fautes. Il y aura toujours des fautes. Je fais extrêmement peu de fautes d'orthographe. Il y en aura toujours dans les bouquins, même une fois qu'ils sont en librairie. C'est la vie. Et des fois, il y aura des trucs fous sur lesquels personne n'est passé.
Corinne, on va marquer une pause musicale.
Faisons.
Et tu as choisi pour nous une musique que je te laisse nous présenter. On va écouter quoi ?
Oui, j'ai choisi Pink Pony Club de Chappell Roan, qui est très connu pour son tube Good Luck Babe, qui a beaucoup tourné cette année. Et je l'ai choisi parce que Chappell Roan est une artiste queer qui me plaît énormément et que j'arrivais pas à choisir comme chanson. Enfin, j'hésitais entre Billie Eilish, Taylor Swift, Chappell Roan, enfin toutes mes gossures quoi. Et Chappell, c'était en fait avec les attaques qui actuellement sur les droits reproductifs, les droits trans, toutes ces choses-là. En fait, s'il y a quelqu'un que j'ai envie de mettre en avant, c'est elle.
Eh ben très bien. Voilà. Eh ben on écoute ça tout de suite, on revient juste après. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You're Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama.
On my mind, and mama, every Saturday I can hear your southern drawl a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Rencontre sur Radio G 101.5 FM.
En compagnie de Corinne Daniello, traductrice littéraire, et on vient d'écouter Pink Pony Club de Chappell Roan, la musique proposée par Corinne. Merci pour ce partage.
Oh bah ça me fait vraiment plaisir.
Corinne, comment en es-tu arrivée à faire de la traduction littéraire ?
C'est presque un hasard. Au collège, je lis énormément, depuis que je suis toute petite, énormément. Et quand j'ai démarré l'anglais au collège, j'ai eu une affinité formidable avec la langue, j'étais une éponge. Tout était extrêmement logique, j'entendais un mot, je le retenais, c'était... On n'a pas du tout parlé anglais à la maison chez moi, rien du tout. Mais vraiment, c'était ce truc me parle à fond.
Des origines anglaises sombres, lointaines.
Alors j'ai des origines anglaises. Ma grand-mère était d'origine anglaise. Mais bon, hormis que je savais qu'elle s'appelait Lewis, j'avais pas d'indication. Quoi. Oui. Vraiment, c'est
venu comme ça, naturellement.
C'est venu comme ça. Je pense qu'il y a un rapport avec la musique. Je suis assez musicale, donc il y a aussi le côté de la langue, ça rentre, les accents, c'est facile. Et puis un jour, au collège, j'ai eu un tilt dans ma tête que les bouquins que j'aimais beaucoup, principalement, je lisais pas mal de bouquins d'auteurs français, mais je lisais beaucoup de Roald Dahl, par exemple. Et d'un seul coup, ça m'est venu dans la tête que... Et du coup, il y a quelqu'un qui a dû traduire ce truc. C'est à ce moment-là que, quand j'ai eu mes super rencontres avec mes conseillers d'orientation, j'aurais dit, moi, je crois que j'aimerais bien être la personne qui traduit les livres. Enfin, c'est venu. Et là, les fameux conseillers d'orientation du collège qui font ce qu'ils peuvent. Vraiment, c'est un métier hyper difficile. Cette personne a eu un très mauvais réflexe qui est qu'elle ne connaît pas le métier et qu'elle m'a quand même donné une réponse. Parce qu'elle m'a dit, non, mais ça, c'est pas vraiment un métier, c'est deux profs d'anglais qui doivent faire ça à côté. Et alors, moi, prof, c'était juste...
Non.
Hors de la question. Donc vraiment, Et vraiment, moi, j'ai enterré le truc à ce moment-là, genre, bon, d'accord. Ensuite, j'ai un peu erré, qu'est-ce que je veux faire? Je faisais beaucoup de théâtre, je voulais faire de la scène. Tout en me disant, arrivé au lycée, j'aime bien parler avec mes copines et les aider avec leurs problèmes, je vais être psy. Donc je vais pour m'inscrire en école de théâtre et en fac de psycho, histoire d'avoir un truc à faire à côté. Je fais la réunion d'information de la fac de psycho. J'ai envie de mourir, d'entrer à faire plein de maths et de la bio et des graphes, des trucs que je trouve passionnants aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était genre jamais, mais pourquoi, quoi? Et vraiment, c'était genre, clairement, je vais être bien dans mon école de théâtre, je mettrai pas un pied là-dedans. Et en sortant, je passe devant un amphi, c'est démarrage, vraiment un hasard total, démarrage de la licence LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère, option anglais, qui est en train d'ouvrir, là, qui démarre. Donc je vais regarder ça, mais complètement par hasard, et là, j'ai. Alors, on va faire de l'histoire, de la littérature, de la traduction. C'est génial, c'est trop bien. Bon, ça sert à rien, je veux pas être prof. Et vraiment, je suis allée là parce que juste toutes les matières avaient l'air trop bien. J'avais trop envie de faire ça.
Et donc, tu t'inscris finalement.
Je m'inscris. Mon but principal, c'était la scène. Et la fac d'anglais, c'était un truc à côté. Mais très vite, la tendance s'est inversée. J'étais pas hyper à mon aise dans l'école de théâtre. J'étais pas hyper à mon aise parmi les gens, même si aujourd'hui, j'ai gardé des super potes. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment ça marchait pas pour moi. Et par contre, j'étais tellement bien dans mes baskets, dans tous les cours d'anglais, ça marchait hyper bien. Et il s'avère que, par un hasard total, je suis tombée sur une excellente fac d'anglais, qui est Paris 7 Denis Diderot, et qui en plus propose un parcours traduction littéraire à partir de la licence 3. Et c'est vraiment au bout de au milieu de ma deuxième année de fac, que des profs ont commencé à nous parler du fait que la traduction, c'est un métier, ça existe, quoi.
Et là, ça s'est ouvert dans ton cerveau. Tu te dis, mais en fait, je peux peut-être réaliser le rêve de gamine que j'avais.
Et à ce moment-là, j'étais encore toujours sur, très bien, je vais prendre ça comme matière. Je vais faire une licence 3 de ça parce que c'est cool, quoi. Et puis, et au cours de cette licence 3, je l'ai choisie parce que je trouvais que les matières étaient chouettes et quitte à aller à la fac, autant faire un truc que j'aime bien. Et c'est au fil de la licence 3 parcours traduction littéraire, on a des conférences de traducteurs qui racontent leur métier. J'étais là, mais en fait, moi qui dors pas bien la nuit, genre travailler de chez moi avec mes horaires, c'est génial. En fait, c'est de l'écriture, c'est de la création, c'est une folle liberté et un truc que j'apprécie énormément qui est super original, j'aime pas le présentéisme. J'ai fait des stages, des boulots où on demande d'être là de 8h à 18h. Mmh. Et en fait, on veut juste vérifier que t'es là. Tu ne fais rien, tu ne produis rien, on ne donne rien à faire avant 11h du mat. Moi, le côté de, vous avez 6 mois, tout ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, vous rendiez le travail fait. Faites ce que vous voulez entre temps. Ça, pour moi, c'était un énorme piège les premières années. Puisqu'évidemment, j'ai rien foutu pendant 3 mois et ensuite j'ai travaillé. Mais ouais, c'est vraiment, en fait, ça m'ouvrait des possibles de, en fait, on peut vivre comme ça. Et en plus en faisant un truc que je trouve génial.
Est-ce que t'as fait des voyages, t'as amélioré ton niveau d'anglais à l'étranger avant de te lancer
En fait, j'avais vraiment, même arrivé en troisième année de licence, j'avais un excellent niveau d'anglais. J'étais pas partie, j'avais pas fait de voyage, rien du tout. J'avais un excellent niveau d'anglais. Comme beaucoup de monde, je m'étais mise à regarder des séries, des films en anglais, anglais avec sous-titré anglais. Et j'emmagasinais énormément de choses. Et moi, voilà, ça rentre très facilement. Donc j'étais hyper à l'aise. Et puis, arrivé à la fin de ma licence, j'ai eu la possibilité de faire un échange universitaire que j'ai fait à l'université d'Emory à Atlanta. Et où c'est vrai qu'arrivé là-bas, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs étudiants étrangers, dont plusieurs français. Et je me suis rendu compte que eux avaient besoin de ce semestre pour fluidifier leurs paroles et que moi,
pas du tout.
Je parlais, je dirais pas, je veux dire pas du tout. J'ai appris des tas de choses. Il y a des tas de petits mots absurdes que j'avais jamais entendus parce que j'avais jamais été dans une conversation en fait avec quelqu'un de la vie quotidienne. Donc j'ai appris énormément de choses. J'ai aussi vraiment rendu la parole plus simple et plus rapide et plus fluide, vraiment à l'oral, l'échange, etc. Mais je savais que je sentais pas que c'était nécessaire pour moi. Par contre, ça m'a apporté énormément de choses, mais moins qu'à beaucoup d'autres qui ont fait le voyage, quoi.
Une fois que t'as fait ta licence, mm-hmm. que tu as eu, donc t'as fait ton voyage à Atlanta. Ouais.
J'ai fait un master de traduction littéraire professionnelle.
Tu fais un master de traduction littéraire professionnelle et après tu te lances.
Voilà. Après, je tiens à préciser parce que ça a été vraiment hyper important pour moi. J'ai fait j'ai rendu un mémoire en fin de master 2, qui a été catastrophique. En fait, j'ai eu une carrière scolaire entre le facile et le brillant, sans trop me fatiguer. Par contre, foirage total sur le rendu de mémoire de M2. J'ai fait, je pense, une mauvaise traduction. Et je pense aussi que j'avais beaucoup trop l'habitude de pas trop me fouler. Et je pense également que mes tuteurs m'ont pas hyper bien accompagné à ce moment-là. Voilà. Ou en tout cas qu'on s'est pas trouvé. Et je suis allée à ma soutenance de stage à ma soutenance de mémoire en septembre pour, en gros, finir, valider mon master en me disant, super, avec Pierre qui faisait le même master que moi, c'était, moi j'aurais 17, non, moi j'aurais 18. Voilà. On était vraiment sûrs d'être brillants tous les deux. Et je me suis fait démonter la tronche. Démonter. On m'a donné mon diplôme parce que quand même ça va quoi, mais je me suis fait démonter. Et ensuite, le lendemain, j'avais mon diplôme, on m'a dit bah allez-y, allez sur le marché du travail, allez vous vendre à des éditeurs et leur dire que vous êtes super bonne et que vous voulez traduire pour eux. C'est pas facile. Moi il y a deux parcours intéressants, c'est que donc Pierre et moi on a eu notre diplôme exactement au même moment. Moi j'ai galéré pendant 6-8 mois, ce qui est pas grand-chose, à faire des lectures pour Customer Journey, leur faire des fiches de lecture jusqu'à ce qu'à un moment, on tombe sur leur traducteur qui était leur traducteur principal à ce moment-là, était pas dispo pour un truc, donc ils ont proposé à plusieurs lecteurs de faire une sorte de petit concours de qui a la chance de traduire le truc, c'est moi.
T'as réussi à l'avoir et aujourd'hui tu traduis pour eux.
Voilà, il y a eu un creux entre les deux, et parce que j'ai traduit d'abord une série pour eux, donc j'ai eu du boulot pendant 2 ans, et puis ensuite retour à la case départ, donc un peu galéré encore pendant 1 an. Alors que Pierre, et j'envoyais des mails à tout le monde, cherchais les adresses email, j'allais sur les salons du livre, j'avais les noms des éditeurs et des éditrices, je connaissais les lignes éditoriales de toutes les maisons d'édition, j'étais à fond. Pierre, un jour, il a envoyé un mail à contact@cherchemidi, et ça fait 15 ans, il bosse pour la même éditrice.
Oui.
Voilà.
Un coup de chance.
Bah, mais vraiment le. Et par contre, bah c'est lui qui m'a. Qui, à un moment où j'étais en galère et que Casterman avait plus de boulot pour moi à ce moment-là, m'a dit, mais en fait, mon éditrice, elle a plein de boulot, tu veux pas que je lui parle de toi? Et bon, bah, ok, si tu considères que je marche pas sur tes plates-bandes, pas de souci. Et je me suis retrouvée à bosser pour Sonatine. Et ce qui m'a permis de faire un peu l'équilibre entre, des fois, il y a du boulot chez l'un, des fois, il y a pas du boulot chez l'autre. Et jusqu'à ce qu'une éditrice en particulier se mette à me dire, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et en fait, je vais continuer à te donner du boulot. Parce que je veux que tu puisses être disponible quand j'en ai besoin. Donc, je te réserve. Et ça devient beaucoup plus confortable.
Que t'as des contacts avec les auteurs?
Ça peut arriver. Au début, je le faisais beaucoup parce que j'avais pas assez confiance en moi. Donc, il y avait des tas de fois où je voulais juste vérifier avec l'auteur que est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça vous avez voulu dire? Est-ce que là, il y a une référence? En gros, cette phrase, elle sonne un peu étrange. Est-ce que c'est une référence à une chanson ou un truc que je ne connais pas, que j'ai pas trouvé sur Internet? Ou est-ce que c'est juste une jolie phrase? Là, par exemple, à un moment, vous décrivez qu'il y a 2 marches d'un escalier qui vont là, mais à un autre moment, on a l'impression que c'est au même étage. Et donc, les auteurs vont me renvoyer le plan de la maison qu'ils ont dessiné pour dire, en fait, il y a 2 petites marches là, mais c'est le même étage.
Pour terminer, Corinne, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la traduction, tu dirais quoi?
De se faire relire par quelqu'un d'autre. Moi, je sais que mes traductions sont d'un excellent calibre parce que il y a un œil complètement neuf qui a un autre traducteur qui relit après moi, qui est Pierre, et vice versa. Et même au tout début, en fait, c'est un truc qu'on fait beaucoup qu'on propose dans les études, de se faire relire les uns les autres, de se commenter les uns les autres. Et en fait, il y a quelque chose de très agréable à avoir quelqu'un d'autre qui nous relie, qui nous renvoie, et on n'est pas obligé de prendre tout ce qu'il nous propose. Et juste des fois, c'est ah mince, ça je l'avais pas vu. Et je pense que la traduction, c'est une activité qui est principalement solitaire. Et c'est des choix à faire et des choix individuels à faire, mais c'est tellement plus beau et tellement au-dessus quand c'est collectif d'avoir quelqu'un qui va venir te dire, ah, moi je pense qu'il y a ça, et que t'arrives à l'ajouter. Parce que toi, t'as mis. Et je pense que c'est une activité aujourd'hui qui est trop solitaire. Enfin, pas aujourd'hui, toujours été très solitaire. Je pense qu'elle est trop solitaire et qu'on gagnerait à faire des meilleures traductions avec plus de retours des autres, sans que le retour soit le retour de la hiérarchie.
Merci Corinne pour ce beau conseil. Et puis bah merci beaucoup Corinne Daniello pour cette belle rencontre aujourd'hui.
Oh, c'était un grand plaisir.
Donc on se retrouve en librairie. Puis bah merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et podcaster cette émission sur radio-g.fr ou sur Spotify. On se retrouve le jeudi 6 mars à 13h pour une nouvelle rencontre. D'ici là, eh bien n'hésitez pas à suivre Rencontre sur Instagram à Rencontre Radio G. Et demain, eh bien on se retrouve à 19h pour C'est le week-end. Portez-vous bien, bonne semaine, topette.
Radio G 101.5 FM.
Sonia, j'ai pas assez d'une main.
Pour
Et pour compter jusqu'à 6.
C'est la